Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
Quid du divorce en droit congolais? Le divorce est la rupture officielle d'un mariage civil ou coutumier légalisé liant précédemment deux personnes. En droit, il se distingue de la séparation des faits sans conséquences juridiques et de la séparation des corps qui est reconnue juridiquement mais qui laisse subsister le mariage. On assiste le plus souvent à des ruptures des mariages des jeunes et même des couples ayant fait plusieurs années de vie commune. Quelle est la procédure en matière de divorce? Quel est l'objet de litige? Quelle est la rétroaction des effets du divorce? À quel moment commet-on l'infraction de la bigamie? C'est autour de ces questionnements que le magazine de promotion de vos droits et devoirs gravite aujourd'hui avec les magistrats du siège et du parquet. Jeff Ngoyi Mulonda coordonne et présente ce magazine. Bienvenue à tous. La question du divorce en droit congolais. Pour commencer, droit et citoyenneté abordent cette question avec Eric Koukoukiesse, procureur de la République près le tribunal de paix de Kasavubu et chef de parquet. Il est en même temps coordonnateur adjoint en charge des questions administratives et financières de l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, APLTP. La procédure pour divorcer est périodicité.
Bon, en un mot, quand on veut divorcer, on adresse une requête devant le tribunal de paix du ressort de la résidence des époux ou de l'un des époux. Donc celui qui a intérêt à demander le divorce doit adresser une demande ou si vous voulez, une requête écrite ou verbale devant le tribunal de paix afin d'obtenir de cette juridiction que son mariage soit dissous avec son conjoint par voie de divorce. En termes d'introduction, c'est ce qu'il doit d'abord faire. Donc, tant qu'on n'introduit pas une requête devant un tribunal, le tribunal de paix ne peut pas se saisir d'office pour prononcer le divorce. Il faut d'abord qu'il y ait une requête, soit verbale, soit écrite.
Et cette requête est introduite par celui qui demande le divorce ou bien par les deux personnes à la fois?
Il peut être introduite par celui qui demande le divorce. Il peut arriver que les deux conjoints demandent simultanément le divorce. Donc chacun introduira sa requête pour sa part. Et je suppose qu'il y aura plus tard jonction des deux causes lorsqu'on sera en pleine instance. Mais ce qu'il faut relever, c'est que lorsqu'on introduit sa requête, le président du tribunal de paix devra, après avoir obtenu la requête d'un des conjoints ou des deux conjoints qui veulent divorcer, il va convoquer le requérant. Donc celui qui veut divorcer sera convoqué par le soin du président du tribunal de paix, afin que ce dernier, donc le président du tribunal de paix, lui fasse relever la gravité de la décision qu'il vient de prendre par rapport à son lien de mariage. Dans les 6 mois de l'introduction de la requête, il sera convoqué à cette fin.
Le délai est de 6 mois pour statuer sur la requête.
D'abord pour lui faire voir gravité des décisions qui seront prises. Là je parle sous l'autorité de la loi dite Code de la famille qui a été récemment modifié en 2016. Donc, il sera convoqué afin qu'on lui signifie la gravité de la requête qu'il a introduite devant le tribunal. Et enfin, ça en suivra ce qu'on appelle la procédure de conciliation entre les époux. Donc, les deux époux seront invités d'abord tour à tour devant le président du tribunal de paix. Quand je dis président, c'est-à-dire tous les dossiers de divorce ne sont pas nécessairement instruit par le président lui-même du tribunal de paix. Il peut déléguer auprès d'un juge, mais c'est toujours sous l'autorité du président du tribunal de paix que ces genres d'instructions se font. Les deux conjoints seront tour à tour, d'abord le requérant, ensuite la partie qui est amenée au tribunal, on appelle partie défendresse, seront invités par le président du tribunal pour être entendus dans la logique d'une procédure de conciliation. Donc le tribunal de paix par le président tentera de concilier les deux époux pendant une période qui durera à peu près 6 mois.
Pour arriver au prononcé proprement du divorce, il faut attendre combien de temps?
C'est-à-dire que lorsque le président se rend compte dans la procédure de non-conciliation qu'il y a impossibilité de concilier les époux, qu'on se retrouve donc dans ce que la loi dit dans l'article 59 du Code de la famille, on se retrouve dans la situation de la destruction irrémédiable de l'union conjugale, c'est-à-dire, et c'est même complété par l'article 105-550, on se retrouve dans une situation où il y a destruction irrémédiable de l'union conjugale, c'est-à-dire que le tribunal tire de fait la conviction que la continuation de la vie conjugale et la sauvegarde du ménage sont devenues impossibles, à ce moment-là, le président du tribunal de fait va dresser un procès-verbal de non-conciliation et donc renvoyer les parties à une procédure d'instance de divorce. C'est-à-dire qu'ils vont comparaître en une instance, en audience, pour que finalement les deux parties soient encore réentendues sur la même cause et que le tribunal, si jamais une conciliation n'intervient pas en pleine audience, parce que ça peut intervenir également en pleine instance, et à ce moment-là, il n'y aura pas divorce, donc ça va éteindre l'instance. Mais si les parties persistent chacune dans sa position de se séparer, le tribunal finira par prononcer le divorce.
Et donc, le processus peut prendre beaucoup de temps.
Oui, il y a plusieurs éléments qui entrent dans le cas d'espèce. On peut se retrouver dans une procédure de divorce lorsque la femme, par exemple, est enceinte. Il faudrait qu'on en statue, par exemple, sur la paternité de l'enfant. Or, tant que l'enfant est dans le ventre de sa mère, pendant cette période de grossesse, il faudrait qu'au niveau du tribunal de paix, qu'on sursoie même à la procédure de conciliation jusqu'à la naissance de l'enfant. Et dès lors que la paternité sera établie, ou si la paternité du père ne sera pas établie, s'il est prouvé que ce n'est pas son enfant, à ce moment-là, la procédure continuera son bon nombre de chemins. Donc ce sont des questions, il y a des questions parallèles au divorce qui doivent être réglées, qui peuvent étendre le temps nécessaire du prononcé définitif du divorce. Si je ne me trompe pas, d'après la lecture nouvelle des innovations que vient d'apporter la loi de 2016 sur le code de la famille de 1987.
Et pendant toute cette période-là, un des conjoints peut-il contracter un nouveau mariage pendant qu'ils vivent en séparation de corps?
Il faut d'abord relever que lorsque les deux conjoints se trouvent en procédure de divorce, ils peuvent ou ne pas être en séparation de corps. S'ils sont en situation de séparation de corps, parce que la séparation de corps peut être également prise comme l'une des mesures, même pendant la période de conciliation, s'ils sont en séparation de corps, cela ne veut pas dire qu'ils ont divorcé. Tout ce que la loi dit en cette matière, je crois que c'est au niveau de l'article 551 du Code de la famille, on dit ceci: la séparation unilatérale qui s'est prolongée pendant 3 ans au moins constitue une présomption de la destruction irrémédiable de l'union conjugale. Ce n'est qu'une présomption de la destruction, mais ce n'est pas encore un état de divorce. C'est-à-dire que le lien de mariage continue à perdurer entre les deux époux, donc il n'appartient ni à l'époux ni à l'épouse de contracter un nouveau lien de mariage tant que celui qui a été contracté avant n'est pas régulièrement dissous. Parce que ce qu'il faudrait relever pour bien répondre avec précision à cette question est même réglée par la définition même du mariage en droit congolais. Selon le législateur, là je suis à l'article 330 du Code de la famille, on dit ceci: le mariage est l'acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l'un ni l'autre dans le lien d'un précédent mariage enregistré établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la présente loi. Donc, par la définition de l'article 330 du Code de la famille, il est impossible à l'un tout comme à l'autre époux de contracter un nouveau lien de mariage tant que le lien de mariage dans lequel il se trouve être contracté n'est pas encore régulièrement dissous ou annulé, parce que le mariage peut être annulé ou dissous. Mais dans le cas d'espèce, les divorces constituent l'un des modes de dissolution de mariage. Donc, tant que le divorce n'est pas encore prononcé par le tribunal de paix, aucun époux ne peut contracter un lien de mariage. S'il le fait, s'il faut surabonder à la question, alors là, il commet ce qu'on appelle l'infraction de bigamie, qui défend justement, qui interdit, pendant qu'on est dans un lien de mariage, d'en contracter un autre, tant que le premier lien de mariage n'est pas encore dissous.
Parce que chaque citoyen a des droits et des devoirs, Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, patriotisme, civisme, respect de biens publics, redevabilité des autorités et plus encore, nous en parlons dans votre magazine Droits et Citoyenneté. Mieux connaître vos droits pour bien les défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Tous les mardis à partir de 9h15 et 20h30. Tous les jeudis à 13h30.
La question du divorce en droit congolais. Qu'est-ce que le tribunal de paix dissout et pourquoi? Léopold Kondaloko, professeur à la faculté de droit de l'UNIKIN et conseiller à la cour d'appel de Matadi, nous en parle.
C'est-à-dire pour divorcer, il faut qu'il y ait le mariage. Parce qu'on ne peut pas divorcer tant qu'il n'y ait pas mariage. Vous ne pouvez pas entrer dans une maison directement, vous retrouver dans la chambre à coucher ou dans la douche sans entrer par la porte. Et la porte, il faut savoir qu'est-ce que c'est que le mariage. C'est le mariage d'abord qui donne lieu au divorce. C'est ainsi que le législateur, à l'article 330 du Code de la famille, a défini le mariage comme étant l'acte civil, public et solennel, par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l'un ni l'autre dans les liens d'un précédent mariage, enregistrés, établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminées par la présente loi. Donc pour dissoudre, il faut qu'il y ait un mariage. Et quel genre de mariage? Parce que dans notre pays, le législateur congolais reconnaît deux sortes de mariages. Il y a le mariage coutumier et le mariage civil. Le mariage coutumier est celui célébré en famille. Lorsqu'on célèbre le mariage en famille, et l'élément important pour que le mariage est célébré en famille ou devant l'officier civil, il faut la remise de dot. Lorsqu'on remet la dot, conformément à la loi, au niveau de la famille, là, le mariage coutumier est célébré. Et deuxième célébration, c'est au niveau de l'officier de l'état civil, c'est-à-dire au niveau de la commune ou du territoire. Vous allez célébrer votre mariage devant l'officier de l'état civil. Ce sont les deux types de mariages qui sont reconnus par le législateur congolais. Mais attention, pour le mariage célébré devant la famille, il faut que les époux aillent se faire enregistrer, aillent faire enregistrer ce mariage devant l'officier de l'état civil. Une fois enregistré devant l'officier de l'état civil, en ce moment-là, ce mariage, en cas de problème entre époux, ils peuvent revendiquer, dire que nous sommes liés par un lieu de mariage et on va devant l'officier de l'État, devant le tribunal pour obtenir la dissolution. Parce que l'article 333 dit ceci, l'union qui n'a été conclue que selon les prescriptions d'une confession religieuse ne peut produire aucun effet du mariage tel que défini à l'article 330 de la présente loi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui croient que non, ils vont se marier au niveau de l'église et après avoir célébré leur mariage au niveau de l'église, ils vont solliciter le divorce devant l'officier de l'état civil. Le législateur congolais ne reconnaît pas le mariage religieux. Mais en revanche, il ne reconnaît que le mariage civil enregistré devant l'officier de l'état civil et le mariage coutumier. Ce sont ces deux types de mariages qui peuvent être divorcés en cas où il y a des problèmes entre eux.
On peut aller solliciter le divorce devant l'officier du ministère public, même si on n'a pas contacté le mariage civil, mais avec le mariage coutumier.
Le mariage coutumier célébré en famille, mais enregistré. Devant l'officier de l'état civil.
Il faut qu'il soit enregistré.
Alors, lorsque vous allez revendiquer, le législateur dit à un des articles, lorsque le mariage a été célébré en famille et qu'il n'a pas été enregistré et que l'un des époux évoque devant le tribunal est obligé de sursoir et permettre à cet époux d'aller enregistrer auprès de l'officier d'état civil pour que le tribunal puisse se prononcer. Donc ce sont les deux types de mariages qui sont reconnus en droit congolais.
Et qu'est-ce qui peut amener au divorce?
Voilà. Le problème qui peut amener au divorce, le législateur parle du divorce à l'article 546. Il dit le président du tribunal de paix convoque le requérant qui lui adresse à huis clos les observations qu'il estime nécessaires, convenables, attirent son attention sur la gravité de la requête introduite. C'est-à-dire un des époux qui se sent offensé, qui estime que les conditions de vie, les conditions de mariage, l'existence de leur mariage ne se justifie plus, il saisit le président du tribunal de paix par requête verbale ou écrite. Une fois que le président du tribunal de paix est saisi, il appelle le requérant ou la requérante, il formule des observations et attire son attention sur la gravité des faits, la gravité de la décision qu'il veut prendre pour solliciter la dissolution du mariage. Et l'article 549 dit « Chacun des époux peut agir en divorce en se fondant son action sur la destruction irrémédiable de l'union conjugale. » C'est l'élément important que le législateur tient compte. C'est-à-dire l'élément, la destruction irrémédiable. Le législateur constate que, en dépit de tous les conseils qu'on doit donner, en dépit de tous les moyens qu'on peut utiliser pour que les époux restent ensemble, le mariage devient vraiment irrémédiable, c'est ce qui va pousser les juges, après un terme de conviction, à prononcer le divorce.
Quelle en est la conséquence sur le plan conjugal et judiciaire, le procureur Eric Koukoukiesse?
La conséquence du divorce est d'abord relevée dans l'article 577 par rapport aux époux, parce que la conséquence c'est par rapport aux époux et par rapport aux tiers. Dès lors que le jugement des divorces est prononcé, à dater du jour où il n'est plus susceptible de voie de recours, alors le divorce sort ses effets, c'est-à-dire que les deux époux ne seront plus considérés comme mari et femme. Donc, à dater du jour où le jugement est prononcé et à partir du moment où il n'est plus susceptible des voies de recours, le jugement de divorce produit ses effets sur les effets personnels du mariage. C'est-à-dire que non seulement on prononce le divorce, mais lorsque les époux ont choisi un régime matrimonial quelconque, il y aura liquidation de ce régime matrimonial, c'est-à-dire répartition de biens selon qu'ils ont choisi soit la séparation des biens, chacun garde ses biens, soit la communauté réduite aux acquis ou la communauté générale. Donc il devra y avoir une répartition des biens et cela, ce sera au moment où ce jugement n'est plus susceptible de voies de recours. Deuxième situation, c'est que par rapport aux rapports matrimoniaux, c'est-à-dire le lien, les obligations et les effets qui étaient nés du fait que les deux époux étaient mariés, les effets du divorce vont rétroagir à partir de la requête en divorce, en ce qui concerne les rapports matrimoniaux entre les époux. Donc le jour de la requête, pas le jour du jugement, mais de la requête, là c'est, je parle sous l'autorité de l'article 577 du Code de la famille, littéra 2, donc du jour de la requête en divorce, en ce qui concerne les rapports matrimoniaux entre les époux, le jugement prend effet à dater de ce jour-là. Et en troisième lieu, du jour de sa mention en marge de l'acte de naissance en ce qui concerne le tiers. Maintenant, il y a d'autres conséquences. Ça, c'est pour les faits. Donc, les époux se séparent, leurs biens doivent être séparés pour que chacun ait sa quote-part d'après le régime matrimonial choisi. Par rapport aux enfants, la situation des enfants, c'est la garde des enfants. Là, cette situation peut être réglée en même temps qu'on a prononcé le divorce ou bien postposée par le juge. Si le juge estime qu'il faut d'abord prononcer le divorce, dans le cas, par exemple, vous avez suscité, c'est-à-dire les époux ont déjà des liens à contracter des mariages à venir. Alors, pour ne pas attendre, on peut prononcer les divorces dans un premier chef et dans un second chef, on va alors prononcer des décisions qui ont trait à la liquidation du régime matrimonial ou choisi par les époux. Concernant certaines mesures de séparation de résidence, de la garde des enfants pendant ou après le divorce, surtout après le divorce, la garde des enfants sera confiée à l'un ou à l'autre époux selon que le juge trouvera que l'intérêt des enfants ou de l'enfant est pris en cause. La garde de l'enfant peut également être confiée à une tierce personne, mais qui a un lien étroit dans la famille avec l'enfant, dès lors que le juge estime que ni l'un ni l'autre époux ne pourra assurer, en tant que père ou mère, les devoirs requis pour une croissance harmonieuse de l'enfant. Mais malgré les mesures de garde à l'actif, soit de l'un des époux, soit au profit d'un tiers, les deux parents continueront, par rapport à leurs enfants, à jouer leur rôle en tant que parents. C'est-à-dire, il y a des devoirs que les enfants devront témoigner vis-à-vis de leur mère ou de leur père, et vis-à-vis des enfants, ils vont jouer le rôle de l'autorité parentale tel que défini par le Code de la famille.
Même s'ils ne vivent plus ensemble.
Tout à fait. Et ils ont des obligations également parentales vis-à-vis de leurs enfants, obligations d'ordre alimentaire, c'est-à-dire les parents doivent s'occuper de leurs enfants en ce qui concerne leur éducation. Ils doivent, s'ils sont mineurs, faire certains choix en ce qui concerne leur scolarisation. Ils doivent nourrir leurs enfants. Donc, ce sont des obligations qui seront partagées entre le père et la mère qui ne vivent plus ensemble. Mais par rapport aux enfants, les deux conservent leur rapport de filiation qu'ils ont déjà obtenu lorsque les parents étaient ensemble. Donc, ils restent leurs enfants et les parents restent parents et tant sur le plan de leurs droits vis-à-vis des enfants que sur le plan de leurs devoirs et réciproquement les enfants vis-à-vis de leurs parents.
La décision du divorce revêt un caractère d'extrême gravité que le juge explique au requérant en la matière. Quelle est cette gravité et comment assurer la pension alimentaire après le divorce? Nous revenons au juge Léopold Kondaloko.
Le législateur a prévu la procédure. La procédure de divorce est l'article 554. L'action en divorce n'appartient qu'aux époux. Parce que ça, c'est un premier élément qu'il faut retenir. Il n'appartient pas à un oncle, à une tante de venir tenter une action en divorce. Il n'y a que les époux qui sont liés, l'un ou l'une qui est offensé, qui estime que les conditions, qui peut introduire une action en divorce. Si l'époux demandeur est interdit ou son tuteur peut en son nom demander le divorce avec l'autorisation du conseil de famille. La procédure telle que prévue par le législateur, il y a ce qu'on appelle la période de conciliation. Vous introduisez votre requête, le président du tribunal de paix vous appelle, il formule des observations et vous rentrez. Après quelques temps, il vous aura demandé de revenir peut-être après un mois, allez réfléchir. Après un mois, vous revenez, il vous pose la question si les observations qu'il vous a formulées, les conseils, vous dites non, je tiens au divorce en ce moment-là. Il engage la procédure d'abord de conciliation que le législateur prévoit qu'il y ait de 6 mois. Pendant les 6 mois, il va organiser à huis clos, à l'absence des avocats, le président du tribunal de paix seul avec les deux époux pendant 6 mois. Et après 6 mois, s'il estime que malgré son intervention, malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce qui se sont dit, le requérant ou la requérante tient au divorce, en ce moment-là, il sera obligé de fixer les dossiers devant le tribunal pour qu'on donne un dossier devant une chambre. En ce moment-là, les parties vont comparaître assistées de leurs avocats. La gravité s'explique par le fait que vous vous êtes unis pour les meilleurs et pour les pires. Lorsqu'on se marie, qu'il soit en famille, devant l'officier d'état civil, devant l'église, vous dites, nous nous sommes mariés pour les meilleurs et pour les pires. Mais vous, vous prenez la décision de dire, aujourd'hui, je viens demander la dissolution. C'est une grave décision. Et sur cette gravité-là, le président du tribunal de paix doit montrer au requérant que c'est une décision grave, parce que les conséquences sont énormes. Si vous avez des enfants, maintenant, les problèmes des enfants risquent de poser un problème. La garde des enfants doit appartenir à qui? Là, tout ça, c'est un problème, une décision grave, parce que ça va à la déstabilisation du foyer.
Selon le juge, il y a possibilité de se remarier devant l'officier du ministère public après le divorce.
Lorsqu'il y a dissolution, c'est-à-dire cette histoire n'existe plus, ça ne produit aucun effet. Donc l'un et l'autre, ils vivent indépendamment. Mais si après 5 ans, 10 ans, ils disent « bon, nous revenons au bon sentiment » et que nous devons alors célébrer un nouveau mariage, ce qui n'est pas interdit est permis, parce que le code de la famille non plus n'interdit pas la célébration d'un nouveau mariage après la dissolution, hein, entre les mêmes époux, mais pas avec un autre époux, c'est un problème. Les mêmes époux, le même couple, disent non, après 5 ans, l'intérêt des enfants, voilà, tel et tel ceci, peut-être qu'il y a eu erreur et ils se réconcilient. Ils peuvent aller célébrer un nouveau mariage. Le code de la famille n'interdit pas. La loi ne l'interdit pas.
Leur quotidien, préoccupations et ambitions, c'est dans 100% jeunes. L'orientation scolaire et académique, l'entrepreneuriat et l'emploi, une émission des jeunes, pour les jeunes et avec les jeunes. Tous les vendredis à 9h15 et 20h30, le lundi à 13h30.
Quid du divorce en droit congolais à travers droit et citoyenneté? De quelle manière le mariage peut prendre fin? Comment se fait la tentative de réconciliation des époux? Le procureur Eric Koukiesse.
Dans la loi qu'on appelle Code de la famille, les mariages peuvent prendre fin de deux manières. Soit par l'annulation, soit par la dissolution. En ce qui concerne l'annulation, c'est une procédure qui est très simple et qui ne demande pas une procédure préalable de conciliation. Donc tous les délais là qu'on observe en matière de divorce ne les sont pas en matière d'annulation de mariage. Là, c'est lorsqu'il y a une erreur, lorsqu'on n'a pas consenti, lorsqu'on s'est marié par la force. Et je veux ici souligner cela. Là, je le souligne surtout en ma qualité en tant que coordonnateur adjoint de l'APLTP. C'est-à-dire que dans l'une des formes de la traite des personnes, on émarge dans certains états, on fait émarger également ce qu'on appelle le mariage forcé. C'est-à-dire ni la femme ni l'homme n'ont accepté, mais dans les circuits ou sous la force de certaines coutumes ou de certains us et coutumes dans certains territoires ou dans certains milieux, on force des personnes à se marier alors qu'ils n'ont pas consenti à ce fait. Ce genre de mariage forcé, lorsque plus tard les personnes prennent conscience de l'absence d'affection et donc de l'intérêt d'une commune destinée entre les époux, ça finit toujours un peu plus tard par le divorce. Encore qu'en matière d'annulation de mariage, lorsque les raisons qui ont donné lieu à l'annulation y demeurent, mais lorsqu'il y a célébration du mariage 2 ans après, on est contraint de divorcer 2 ans après, alors que la même loi dit que l'action en nullité du mariage ou en annulation du mariage est une action imprescriptible. Mais dès lors qu'il y a célébration, c'est-à-dire dès lors qu'il y a l'intervention de l'officier de l'état civil, là, on estime qu'il faut qu'il y ait divorce 2 ans après. Dans le 2 ans, on accepte encore la procédure de l'annulation de mariage, mais après 2 ans, il n'y a que la voie de divorce qui demeure. Et en dehors de l'annulation, j'ai dit, lorsqu'il n'y a pas de consentement, lorsqu'on force une personne à se marier, donc il se marie par menace, violence, lorsque il y a ruse, donc vice de consentement également. Mais en dehors de cela, de l'annulation, j'ai parlé de la dissolution. La dissolution, c'est quand il y a la mort d'un des époux, ce qui est une fin normale du mariage, du reste tel qu'est défini par le code de la famille. Mais en deuxième position, on parle du divorce. C'est lorsque il y a destruction irrémédiable du lien conjugal. Et en troisième ressort, lorsque un des conjoints est devenu tellement absent que l'autre obtient un jugement déclaratif du fait de l'absence, là également, il y a possibilité de dissoudre le mariage. Mais dans les trois modes de dissolution, c'est le divorce qui constitue une séparation souvent brutale et fondée soit sur la colère, soit sur la haine, et qui a des conséquences beaucoup plus pénibles que les autres procédures en matière d'annulation ou de dissolution de mariage. Alors, le principe du divorce, c'est qu'avant d'y parvenir, dans la procédure de conciliation, le juge, donc le magistrat par excellence, s'efforce de concilier, c'est-à-dire d'amener les époux à fumer ce qu'on appelle le calumet de la paix, donc à mettre de l'eau dans leur vin, enfin de se réconcilier. Et si le juge parvient à le faire, encore que le délai est long, et on peut y faire intervenir également les membres de famille par le juge du conseil de la famille, si le juge, et si son travail parvient à le faire, à ce moment-là, on aura gagné, le principe légal en matière du but du mariage aura gagné, donc les deux conjoints se seront pardonnés et continueront leur lien de mariage comme si de rien n'était. Mais on ne s'arrête pas seulement dans la procédure préalable de conciliation, même pendant l'instance même des divorces. Le juge peut toujours continuer et faire intervenir le conseil de famille, c'est-à-dire des personnes qui sont proches des deux époux, afin qu'on trouve la possibilité de réconcilier les deux époux. Si cette possibilité est acquise et que les époux se réconcilient, j'ai dit dans mes précédentes interventions que cette réconciliation-là ou cette conciliation éteint directement l'instance de divorce. Donc le juge va constater qu'il y a une conciliation entre les époux en pleine instance et qu'il n'y aura plus instance de divorce, ça s'éteint. Et à ce moment-là, les deux époux continueront à vivre comme si de rien n'était. Donc, comme vous le constatez, la procédure étant une procédure grave en termes de conséquences, le législateur a voulu, au niveau du code de la famille, que le magistrat, à toutes les étapes, puisse booster les époux, les inciter à se réconcilier, afin que le cursus vers le divorce puisse être stoppé et que les époux reprennent leur vie conjugale qui tendait à la séparation.
Vous arrive-t-il de recevoir, d'instruire des cas de divorce dans votre juridiction?
Oui, nous sommes dans un office qui est près un tribunal de paix. Donc, par excellence, la juridiction qui statue en matière de divorce, c'est le tribunal de paix. Donc, c'est devant le tribunal de paix que n'importe quelle personne qui veut divorcer doit introduire sa demande en divorce.
Avant de conclure cette émission sur la question du divorce, le conseiller à la cour d'appel de Matadi, Léopold Kondaloko, prodigue quelques conseils aux candidats au divorce.
Donc les conseils que je donne aujourd'hui aux nouveaux mariés, ceux qui veulent se marier ou qui se sont mariés et qui veulent se divorcer, avant d'aller solliciter le divorce, il faut mieux par rapport aux conséquences, surtout lorsque vous avez eu des enfants, parce que les enfants risquent d'être délaissés, les enfants risquent de perdre l'affection maternelle et paternelle, et peut-être demain, ils peuvent dire, moi je ne veux pas me marier si c'est une femme, dire parce que papa et maman se sont divorcés, moi je ne vois pas l'importance de me marier.
Soit grandir avec ce traumatisme,
ce qui n'est pas bon. C'est pourquoi, lorsqu'on s'y engage, on s'y engage définitivement. Même s'il y a destruction irrémédiable, faites un effort de vous contenir et de ne s'en tenir qu'à la cause ou aux causes prévues par le législateur pour le divorce, notamment l'adultère. Mais l'adultère, lorsque l'époux enfonçant estime qu'il a pardonné à son mari ou à son épouse, nous en avons vécu au village. Un chef de secteur qui avait plusieurs femmes, mais sa femme est allée l'attraper avec une autre femme. Il a porté plainte, mais il a dit c'est mon mari et c'est mon épouse et l'affaire était terminée entre eux. Donc le conseil que je donne aux époux ou ceux qui sont en instance de divorce, de réfléchir. Les gens qui vont au mariage par intérêt, moi je veux me marier avec tel parce qu'il a de l'argent, c'est la plupart des gens qui divorcent. Mais c'est lui qui va dans le mariage sans tenir compte de l'intérêt de la famille du mari ou de la famille de l'épouse. C'est lui qui va dans le mariage consciencieusement tel que prévu par la Bible, tel que Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attache à son épouse et ils deviendront une seule chair. Celui qui s'engage dans un tel mariage doit aller jusqu'au bout, le supporter dans le malheur comme dans le bonheur, parce que dans la vie, il y a toujours les hauts et les bas. Aux jeunes qui veulent se marier, de savoir que l'entreprise de mariage, c'est une institution divine créée par Dieu que l'homme ne peut pas dissoudre s'il n'y a pas la volonté des deux conjoints. Mais ici, peut-être ouvrir une petite parenthèse, parce que nous avons connu les gens qui ne se sont jamais mariés, ni coutumément, civilement, mais ils sont restés pendant 10 ans, 20 ans, ils ont eu des enfants, comme on appelle à Lingala et à Katofand. Là, même si vous allez devant le tribunal ne va pas dissoudre un tel mariage qui n'a jamais existé. Donc, si vous voulez que votre mariage, demain, vous puissiez garantir votre vie, la vie de vos enfants, mariez-vous coutumièrement, selon la famille, en fait, vous enregistrez au niveau de la commune ou allez célébrer directement devant l'officier de l'état civil plutôt qu'aller célébrer dans l'église et dire non, il y en a balayé sous et prendre des dispositions pour que demain il y ait des conséquences néfastes.
Voilà, vous avez été nombreux à nous suivre sur la question du divorce en droit congolais. La procédure, la gravité de la décision, la possibilité de réconciliation ou de remariage légal. Cette émission est maintenant terminée. Merci de votre aimable attention.